Je suis très honorée de pouvoir partager la parole ce matin, donc merci à Bernard de m'avoir invitée. Et j'aimerais tout simplement vous partager en fait ce que Dieu m'a appris cette année et comment ça a bouleversé ma vie. Et j'ai à cœur de vous dire que Dieu veut vous emmener tous beaucoup plus loin dans la relation qu'il a avec chacun d'entre vous. J'ai vécu dans une famille recomposée, donc chez mon père, ils étaient tous athées, et chez ma maman, on allait à l'église une semaine sur deux. Et donc j'ai grandi dans deux univers très différents. Je voyais autour de moi des gens qui croyaient vraiment en Dieu. Mais moi, je ne voyais pas Dieu agir dans ma vie, et je me demandais, mais à quoi sert Dieu? À quoi il sert dans ma vie? Et j'avais assez peur des adultes, et la peur que j'avais des adultes, je l'ai projetée sur Dieu. Et je pensais qu'il fallait prier, qu'il fallait lire sa Bible pour être en relation avec Dieu. Mais en fait, la vérité, c'est que si on prie, si on lit sa Bible, ça ne suffit pas si notre cœur n'est pas connecté avec Dieu. Et c'est sur ça que j'aimerais vous parler de ce matin. Parce qu'on peut croire en Dieu, mais on peut ne pas être disciple de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence. Mon humeur dépendait des circonstances extérieures et non de la présence de Dieu. En fait, j'attendais que quelque chose de miraculeux tombe du ciel. Et comme je voyais rien de miraculeux, je me disais que Dieu n'était pas là. Et en fait, il faut qu'on laisse Dieu nous parler de la façon dont lui veut et non dont nous voulons. Donc ça, c'est le premier point que j'ai compris. J'ai un petit exemple par rapport à ça. Je devais participer à un camp chrétien pendant les grandes vacances de l'année dernière et je ne pouvais pas y aller parce que les dates n'étaient pas bonnes. Et j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, s'il te plaît, je veux aller à ce camp chrétien ». Et les circonstances ont fait que j'ai pu y aller. J'ai dit « Merci Seigneur, je suis super contente ». 2 jours plus tard, on m'appelle pour me dire que je ne pouvais pas y aller à cause du Covid. J'ai eu l'impression de recevoir un seau d'eau froide sur la tête. Je me disais « Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça ne fonctionne pas ». Mais j'ai quand même continué à prier, j'ai quand même continué à lire la parole. Et à la place de ça, j'ai fait autre chose. Donc pendant une semaine, on recevait des vidéos chrétiennes qui parlaient de notre relation avec Dieu. Et à la fin de ça, il y a eu une réunion avec toutes les personnes qui ont participé. Et il y a une personne qui m'a envoyé un verset alors que je ne la connaissais pas. Et ce verset résumait exactement ce que je pensais. C'était Sophonie 3:17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Et ça résumait complètement ce que je ressentais. Dieu ne me parlait pas, j'avais l'impression qu'il était silencieux, mais son silence n'est pas son absence. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne tous. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que quand Dieu est silencieux, quand Dieu ne nous parle pas, ça veut dire qu'on doit s'approcher de lui. Ça veut dire qu'on doit avoir un temps de préparation. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il y a eu tout un temps avant de préparation. Quand Moïse, la première chose qu'il a fait, c'est Dieu lui a demandé de construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu où il y a la présence de Dieu qui est là physiquement. Et c'est ça, en fait, ce qu'on doit tous faire en premier, c'est de construire le tabernacle avec Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui est optionnel, c'est un ordre qu'il nous donne. L'Éternel dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Il dit bien, tu dresseras. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Bon, tout ce que je viens de vous dire, normalement, vous êtes au courant. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on sait toutes ces choses-là. Mais en fait, si on ne comprend pas l'amour de Dieu, on ne pourra jamais le faire dans notre vie. On ne pourra jamais s'efforcer d'être bon. On ne pourra jamais s'efforcer d'être assez chrétien, entre guillemets, si on ne comprend pas, en fait, quel est l'amour de Dieu et ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Ésaïe 5, 1, verset 1, 2 nous dit « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. » Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. On a un monsieur qui travaille très très dur dans son champ. Il fait tout ce qu'il peut pour que tout soit parfait. Il met de la bonne terre. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Et parfois, dans notre vie, c'est un petit peu pareil. On désespère et on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ça fonctionne? Ésaïe 5, 7. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et Juda, c'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice et voici des cris d'accusation. Le tronc de la vigne, ça représente le cœur du peuple de Juda. Si la vigne en elle-même, elle est pourrie, il n'y aura jamais de bons fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Si les racines de notre vie sont centrées sur nous, sur nos problèmes, on n'aura jamais de bons fruits. Mais il y a une très bonne nouvelle. Jean 15, 1-2. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Si les racines, si le cep, c'est Jésus, on aura de bons fruits dans notre vie. C'est plus notre cœur qui est pourri qui sera là, mais ce sera celui de Jésus. Il y a une autre chose très intéressante. Et mon père est le vigneron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Jésus. Enfin, c'est Dieu, en fait, qui va travailler pour nous. Et le problème majeur dans notre vie aussi, c'est quand on prend la place de Dieu qui est le vigneron, quand on est nous-mêmes les propres vignerons de notre vie. Mais il y a une question qui se pose. Comment on fait alors? Parce que c'est bien beau de le dire, c'est bien beau de dire qu'on veut que Jésus soit dans notre cœur. Mais comment on fait pour que Jésus soit à la place de notre cœur? Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Oui, on doit obéir et lire la Bible. Ça, c'est, on le sait tous, mais on oublie la plupart du temps la fin. Demeurer dans mon amour. Et c'est quand on comprend, quand on prend conscience de ça que ça change. C'est pas possible d'obéir à Dieu sinon. Parfois, les mauvaises images qu'on a de Dieu, les mauvaises conceptions qu'on a de Dieu vont bloquer la compréhension qu'on a de son amour. Pourquoi Jésus veut que l'on demeure en lui? Pourquoi après tout? Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Comprenons bien que ce n'est pas un fardeau d'être avec Dieu, mais que son amour, il est parfait. Jésus veut que l'on soit heureux et épanoui. Je vais vous partager un passage de la Bible qui m'a vraiment fait pleurer parce que c'est là où j'ai compris le cœur de Jésus. C'est le passage où Jésus arrive à Jérusalem et que tout le monde l'acclame avec les rameaux. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Quand ils approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant, cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. » Alors que Jésus est acclamé par la foule, alors qu'il est acclamé, qu'il est là comme un roi des rois, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure parce qu'il a compris que la plupart des gens ne l'aime pas, que la plupart des gens ne le laissent pas entrer. Si on ne laisse pas entrer, on sera ballotté de gauche à droite. Et par nos propres forces, ça ne fonctionnera pas. Quand on fait de lui notre priorité, qu'on l'écoute, on ne perdra plus jamais notre temps, parce qu'il est notre guide. Et ce qui a été dit, c'est encore actuellement. Jésus, quand il nous regarde, la plupart du temps, il pleure. Il pleure en nous voyant parce qu'on ne lui fait pas assez confiance. On ne réalise pas en fait combien il est puissant, combien il est glorieux, combien il est victorieux. Et un autre passage aussi. Le passage avant que Jésus meure, avant que Jésus soit crucifié, vous savez quoi? Il priait. Il ne priait pas, il ne disait pas à mon père, « Papa, s'il te plaît, abrève ma souffrance, je n'ai pas envie de souffrir. » Vous savez quoi? Il priait pour nous. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je veux vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Je vais faire un petit résumé de ce que j'ai dit. Je crois en Jésus. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mon cœur est mauvais. Alors je dois l'inviter dans mon cœur. Et pour ça, je dois lui abandonner toutes mes fausses compréhensions et vivre pleinement son amour. Ok, mais il y a autre chose. Tout à l'heure, on a dit que Dieu était le vigneron. Mais vous êtes d'accord avec moi que les fruits ne vont pas pousser tout seuls, même si c'est un vigneron. Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mite ne détruit pas. Faites-vous. Faites-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être intentionnel dans son quotidien. Être intentionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir de chercher Dieu. Ça veut dire respecter ce qu'il demande de faire, mais ça va demander à vous de choisir de le faire. La première fois que Dieu m'a vraiment parlé, je pensais qu'il me dirait qu'il m'aimait, que j'étais sa fille. Eh bien, pas du tout. La première chose qu'il m'a dit, c'est « ma fille, sois obéissante ». Et ça m'a vraiment marquée. Pendant très longtemps, je trouvais que Jésus parlait avec dureté dans la Bible. C'est vrai que parfois, Jésus, il reprend bien sévèrement ses disciples. Parfois, il est très direct. Et ça ne me donnait pas envie de lire ma Bible. Mais il y a un moment où, dans mon esprit, ça a switché et j'ai compris, en fait, que tout ce que Jésus dit dans sa parole, c'est pour édifier, c'est pour nous édifier. Et je vais vous montrer la patience de Jésus quand il reprend les gens. Je vais vous montrer que vous n'avez aucune crainte à aller lire votre Bible et que vous ne serez jamais jugé et condamné pour ça. Jamais il vous rejettera. C'est le passage avec le bon samaritain. Luc 10, verset 25. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Donc on a un monsieur qui veut piéger Jésus. Et ce qui est marrant, c'est que le monsieur, il connaît déjà la réponse, mais il va quand même demander à Jésus. Parfois, on attend que Dieu nous donne des réponses à nos problèmes alors qu'on connaît déjà la réponse et que la réponse est déjà dans la Bible. Mais parfois, on est comme lui et on va prier. « Jésus, dis-moi ce que je dois faire alors qu'on connaît déjà. » Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu ? » Là, on a Jésus qui connaît, hein, il sait qu'il se fait agresser en quelque sorte. Mais il l'invite juste. Mais qu'est-ce que tu lis? Avec très douceur. Parfois, on croit que Jésus va nous gronder, mais pas du tout, il nous invite juste. Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Amen. Jésus, il veut que l'on apprenne à faire des choix par nous-mêmes. Les parents, vous êtes d'accord que votre objectif dans la vie, c'est que vos enfants apprennent à faire des choix par leur propre volonté. Vous n'avez pas envie de les assister toute votre vie. Et bien Jésus, c'est exactement pareil avec nous. Voilà. Simple, efficace. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'était très clair, pourtant. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que notre cœur est tortueux. Notre cœur est très tortueux. On cherche des excuses constamment. Pourtant, ce que Jésus dit, c'est très simple et c'est pur. Regardez la proportion du verset. Il répondit, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Les deux tiers du verset parlent de notre amour envers Dieu. Et nous, la seule chose qu'on retient, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. la proportion quand même. Pour moi, ce qu'il aurait dû demander, c'est plutôt comment faire pour aimer Dieu. Si on aime Dieu, ça coulera automatiquement et on pourra aimer Dieu. Mais une question se pose alors. Comment on fait pour aimer Dieu? Comment on fait? Et c'est là que Jésus va illustrer et qu'il va donner la parabole du bon samaritain. Donc c'est un monsieur qui se fait un petit peu bastonner par des gens. Un prêtre passe, il l'ignore. Un prêtre passe, il l'ignore. Et un samaritain passe et il va panser ses blessures, il va prendre soin de lui. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Les samaritains étaient méprisés. Donc la personne qui parlait avec Jésus, ça a dû vraiment l'énerver de devoir reconnaître que c'était le bon samaritain. Alors que lui demande « Qui est mon prochain ?» Jésus lui dit « De qui es-tu le prochain ?» Et ça implique de l'action, vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui répondit donc « Va agir de la même manière, toi aussi. » Ce que j'ai compris, c'est que Jésus corrige nos cœurs et corrige nos mauvaises façons de penser, mais dans la douceur, et il nous amène à comprendre les choses de manière très simple et sans nous juger et sans nous condamner. Mais il faut lui obéir. On peut très bien comprendre ce qu'il nous demande de faire, mais pas de le faire. C'est ça, être intentionnel. C'est inviter, parce que ça, c'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Hein. Il faut inviter le Saint-Esprit et le laisser nous corriger et dire oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc moi, je suis en première année aux Beaux-Arts, je suis arrivée cette année. Et mes parents habitent à Paris. Donc ça veut dire que j'allais les vivre toute seule. Et j'avais eu l'idée d'écrire une lettre à mon père et à ma belle-mère pour leur dire que c'est pas parce que je partais que j'allais les abandonner. Mais cette idée, elle est vite passée et puis j'ai pas du tout écrit la lettre. Et ils m'ont aidée à m'installer au début de l'année. Donc je vous ai dit tout à l'heure que mon père n'était pas chrétien. Et à un moment, on était en train de manger et on commence à discuter. Et il commence à me dire « Oui, je comprends pas pourquoi tu crois en Dieu, la science explique tout, nanani, nanana. » Et moi, j'étais énervée. Mais il faut pas être énervée. Alors, j'ai fait comme si tout allait bien. Ils sont partis. Et j'étais encore énervée. Et j'allais me préparer pour aller dormir. Et là, le Saint-Esprit me dit clairement « Écris ta lettre pour tes parents maintenant. » J'ai dit non. Non, j'ai pas envie de l'écrire maintenant, je suis énervée contre eux, je vais pas leur écrire une lettre d'amour maintenant. Et c'est là que j'ai pris conscience ce que ça voulait dire d'aimer de façon inconditionnelle. Alors j'ai commencé à écrire la lettre et je vous promets, en quelques secondes, ma colère, elle s'est enfuie directement. Et j'ai commencé à être très reconnaissante envers mes parents pour tout ce qu'ils m'avaient apporté. À partir du moment où vous allez inviter le Saint-Esprit, vous allez être brisé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Saint-Esprit va vous briser au plus profond de vous-même pour vous montrer comment agir, pour adopter ses façons de penser. Mais tout dépendra de notre réponse. Parfois, on croit que le Saint-Esprit ne nous parle pas. C'est juste qu'on ne le remarque pas. Parce que là, moi, comment il m'avait parlé, c'était juste au travers d'une pensée, c'était pas quelque chose de fabuleux et d'extraordinaire. On s'attend à avoir des grosses visions, alors qu'en fait, pas du tout. Il ne faut pas négliger l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il ne faut pas négliger de toutes les petites façons qui peuvent vous parler. Ça peut être une personne qui va vous parler, vous allez écouter une chanson, il y a telle parole qui va vous toucher. Un autre exemple. Il y a quelques mois, pour l'école, j'avais un projet à faire. Il fallait faire de la broderie sur un grand format. Et moi, je me suis dit, ça va être facile, hein, quelques jours c'est fait. Pas du tout. Au bout d'une semaine, j'avais toujours pas fini, j'avais fait ça, il fallait faire tout ça. Et je priais, je disais, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Et un jour, j'étais en train de broder et il me dit, mets de la peinture sur ton travail. J'ai dit non, j'ai pas envie de le faire, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je continue à broder, les jours passent. Je me rappelle de ça. Et je dis, bon ok, t'as gagné. Et je mets de la peinture et ça a résolu mon problème. Une demi-journée, vraiment. Le Saint-Esprit connaît mieux que nous les choses. Le Saint-Esprit connaît mieux toutes choses. Et ce qu'il m'a amené à réaliser, c'est que le Saint-Esprit s'intéresse aux moindres détails de votre vie, en fait. Un petit truc de broderie, c'est rien du tout. Et parfois, on croit, on va juste prier pour les grosses choses, pour notre mariage, pour notre travail. Mais en fait, prier pour toutes les petites choses, en fait. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Comment voulez-vous que Dieu vous parle si vous n'arrivez pas à le discerner dans les petites choses? Mais une question se pose alors. C'est bien facile à dire, mais comment on fait pour discerner sa voix alors? Bien sûr, par la prière et les temps d'intimité avec Dieu. Je vais vous parler un peu des rencontres entre Moïse et l'Éternel. Moïse prit la tente et l'adressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela « tente de la rencontre ». Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre, à l'extérieur du camp. Donc déjà, il faut s'isoler, se mettre dans sa chambre ou n'importe où. Prenez du temps avec Dieu. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Moïse va dans la tente et quand il met le pied, la présence de Dieu disparaît. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on attend la présence de Dieu pour aller prier. Mais la réalité, c'est que Dieu est là à partir du moment où on va prier. Il faut avoir l'assurance que Dieu est avec vous à partir du moment où vous priez. Moi, quand je priais, j'avais peur que Dieu ne me parle pas. J'avais peur d'être déçue. Du coup, je priais 5 minutes. Au revoir, merci Seigneur. C'était tout. Et faut pas attendre que Dieu vienne vous chercher. Il faut y aller, tout simplement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a la chance de pouvoir parler avec le Créateur du monde, avec le Créateur de l'univers? Quand on est malade, on se rend compte que quand on est en bonne santé, c'est extraordinaire. Quand vous regardez votre femme ou vos enfants, vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ?» C'est Dieu qui les a créés. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc voilà, n'attends pas la présence de Dieu pour prier et aie l'assurance qu'il est déjà avec toi. Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Amen, est-ce qu'on ne voudrait pas tous avoir ça? Mais c'est possible. Ça paraît peut-être un peu tout beau, comment je le dis, mais ça va demander de la patience et de la persévérance. Faut dire ce qui est. Faut persévérer dans la prière. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Persévérance. On continue. Exode 34, 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse était régénéré par la présence de Dieu. Mais ça veut dire que, quand il ne prie pas, la lumière de son visage diminue. Vous êtes d'accord avec moi? Faut pas laisser la présence de Dieu s'éteindre. C'est pas parce qu'on va prier une fois qu'on aura toujours constamment la présence de Dieu avec nous. Il faut choisir constamment d'être régénéré par lui. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Le voile de Moïse, ça symbolisait dans l'Ancien Testament la séparation entre Dieu et le peuple. Parce que eux n'avaient pas cette chance de pouvoir prier avec Dieu, à part Moïse. Jésus, en mourant à la croix, a brisé ce voile-là. Et c'est grâce à ce que Jésus a fait sur la croix qu'on peut avoir tout ça. Notre problème, c'est de considérer la prière comme un fardeau ou comme une tâche quotidienne. Mais quand on voit ça, moi je me dis, mais moi aussi je veux la même chose. Moïse, tous les jours il priait. David dansait pour Dieu. Vous êtes d'accord ? Je vais vous montrer une autre facette de Jésus. C'est dans le Nouveau Testament, quand Jésus va envoyer ses disciples deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais les apôtres, c'est comme des petits-enfants qui courent vers leurs parents pour leur raconter leur journée. Et moi, ça m'a bouleversée, mais j'étais, mais ah, mais Seigneur, mais moi aussi, je peux faire la même chose, en fait. Prier, c'est aussi lui raconter votre journée. Par exemple, vous voyez là, il y a des travaux sur la route. Et moi, je suis à vélo parfois, et il y a des plots. Et je suis très nulle au vélo, et parfois, je me prends les plots, en fait. Et à chaque fois que je réussis, je dis « Jésus, je suis trop forte, regarde, j'ai réussi à pas tomber !» C'est bête, mais c'est comme ça aussi qu'on entretient sa relation avec Dieu. Dieu nous demande d'avoir confiance en lui et de s'attendre à ce qu'il nous réponde. Je vais vous parler du passage de la mer des roseaux, Exode 13, verset 34, verset 34-35. Non, ça c'était avant. Ouais, c'est ça. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Il était constamment là. Mais il y a une petite subtilité, c'est que la nuée, c'est délicat. Et parfois on ne le voit pas, mais il est quand même là. Il faut être attentif à la voix de Dieu dans notre vie. L'Éternel dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils reviennent camper devant Pi Hahiroth, entre Migdol de la mer, vis-à-vis de Baal Tsephon. C'est en face de cet endroit que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont perdus dans le pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Tout se passa ainsi. Dieu a la réponse au moins de problèmes de votre vie. Même si vous aussi vous êtes poursuivi par des Égyptiens, j'en sais rien, Dieu a toujours le contrôle sur toute chose. Amen. Nos difficultés ne sont pas une surprise pour lui. Rien ne lui est caché. Regardons maintenant la réponse des Israélites. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Parfois, on est pareil. On préfère retourner dans le passé parce que c'était confortable. Parce que c'était confortable. On pense que c'est plus confortable alors qu'en fait, on est complètement esclave. Ils sont en train de placer leur peur au-dessus de leur confiance en Dieu. Et c'est ce qui arrive quand on ne prie pas assez. C'est ce qui arrive quand on ne cherche pas Dieu. Nos peurs nous envahissent et elles nous bloquent complètement de la puissance de Dieu. Quand on ne prie pas, c'est comme si on disait à Dieu, « Je n'ai pas besoin de toi. » On lui dit, moi je sais mieux faire que toi. Et Jésus est blessé. Jésus est blessé quand on ne prie pas, quand on ne s'attend pas à lui. Vous vous rendez compte qu'il est quand même capable d'ouvrir la mer en deux. Mais nous, on se dit, non Seigneur, je sais faire. Jésus est mort parce que notre cœur est tortueux et qu'on ne cultive pas l'amour et qu'on est trop incrédule. Mais Dieu le sait. Dieu connaît notre cœur. Et c'est merveilleux parce que malgré tout ce qu'on peut faire, malgré toutes les fois où on ne s'attend pas à lui, il ne nous condamne pas. Jésus est mort pour vivre en nous afin que par lui, nous puissions guérir et aimer exactement comme on lui aime. Voilà. Ça, si vous avez un petit carnet, n'hésitez pas à noter parce que c'est des petites clés qu'on oublie facilement. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Regardez, ils ont juste à regarder la déliverance de Dieu. Et Moïse leur dit d'être silencieux. Parfois, on a le droit de dire à Dieu qu'on a peur, mais parfois, il faut juste garder le silence et espérer, en fait. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrie ? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Quand on a un problème, au lieu de prier, de dire « Seigneur, je ne comprends pas », mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Quand tu ne comprends pas ta situation, mets-toi en marche. Et continue d'avancer et de faire confiance en Dieu. Notre part à nous, c'est de marcher et Dieu fera tout le reste. Vers le milieu de l'année, j'ai connu dans ma petite vie une tempête. Enfin, c'est pas grand-chose, mais je me sentais pas très bien dans mon école. Et j'avais envie d'arrêter les beaux-arts. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme étude ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pendant 2 semaines. Je pleurais même en cours. Parce que c'était un peu dur pour moi. Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne m'a pas dit, tu iras là, tu iras là. Mais il n'y a pas un soir où je ne me suis pas couchée sans avoir l'assurance que Dieu était avec moi. Sans avoir la certitude qu'il gérait ma vie, même si moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Mais il faut quand même prier. Et la présence de Dieu, elle est tellement forte. Peut-être que certains vont se dire, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est bien beau parfois de vouloir regarder Dieu agir, mais pour l'instant, je ne le vois pas, donc... Je vais vous montrer la différence d'attitude entre le peuple et celle de Moïse. Parce que Moïse aussi avait peur. Il tenait à lui tout seul un peuple complètement incrédule. Mais Moïse avait une relation avec Dieu. Avant, moi, quand je priais, je disais « Seigneur, bénis ma journée, bénis mon repas, je te remets ma nourriture. Et le soir, bonne nuit Seigneur, je te remets ma famille. » J'aimerais vous montrer qu'on peut aller dans une autre dimension dans la prière. Exode 33, 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Moïse est désespéré et il n'a pas peur de dire à Dieu ce qu'il ressent. Il n'a pas peur de dire à Dieu, « Je ne sais pas comment faire. » Vous avez le droit de dire à Dieu, « Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas là où tu veux m'emmener. » Vous avez complètement le droit. Il lui montre son incompréhension. « Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Moïse savait ce que Dieu pensait. Et c'est là toute la différence. « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » Moïse prie en étant appuyé sur ce qu'il sait de Dieu. Et ça change tout. L'Éternel lui répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moi, si Dieu me dit ça, je vais m'endormir, je vais être toute contente. Mais vous savez quoi, Moïse, il ne s'arrête pas là, il continue. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ?» Moïse ne lâche pas dans la prière tant qu'il n'a pas la réponse qu'il veut. Moïse va continuer, vous pouvez aller vous-même lire le passage après, mais ça va continuer, l'échange va continuer, ça ne s'arrête pas là, là je vous montre que le début de ce qui se passe. Mais Dieu, dans ses réponses, j'aime les réponses de Dieu parce qu'il est très simple, ses réponses sont super courtes, mais il montre constamment sa présence et que c'est lui qui gère. Parfois, notre vie, c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire qu'on a plein de petites pièces en main. Et parfois, on a une pièce qui est rouge, l'autre, elle est verte. Parfois, on a le coin, parfois, on est en plein milieu et on ne sait pas comment assembler tout ça. On n'a que quelques pièces en main et on n'arrive pas à les emboîter. Mais ce que j'aimerais vous montrer par là, c'est que Dieu connaît l'image de la fin de votre puzzle. Voilà, petite image pour illustrer. Dieu connaît la fin, vous êtes d'accord? Et je me suis demandé, mais pourquoi Dieu, s'il est si puissant que ça, pourquoi il n'a pas tout simplement arrêté les Égyptiens en avance? Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais en fait, c'est dans les épreuves où on est obligé de s'attendre à Dieu. Vous êtes d'accord? Si on n'a pas de problème, si tout est facile, jamais on ne pourra avoir la puissance de Dieu dans notre vie. C'est dans les épreuves que notre foi grandit. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un autre passage où Jésus, il devait se rendre à Jérusalem. Et il y a des gens qui lui disent « Ne va pas à Jérusalem parce que Hérode veut te faire mourir. » Et vous savez quoi? Jésus, il est quand même allé à Jérusalem. Alors qu'il y avait un problème, Jésus s'est jeté dans le problème. Et nous, parfois, on fuit, mais il faut se jeter dans le problème pour voir la délivrance de Dieu. Quand je suis arrivée à Angers, j'ai prié pour savoir dans quelle église je devais aller. Et à cette période-là, j'avais une petite foi, j'avais prié comme ça. Et avec ma maman, on allait ici. Et j'étais même pas certaine que Dieu allait me guider, je savais pas ce qu'il faisait. Mais quand je suis arrivée à la réunion d'oxygène, le vendredi soir, la première chose que j'ai vue, là, une petite affiche, vous savez ce qu'il y a écrit? Le verset Sophonie 3, 17. Le verset qu'on m'avait donné quelques mois avant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Dieu est tellement présent. Et j'aurais pu passer à côté de l'affiche et me dire, bon, elle est juste là. Mais il faut reconnaître Dieu dans les moindres petites choses. Et mon encouragement pour vous, c'est de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Demandez-lui de vous montrer comment lui vous aime. N'ayez pas peur de lui demander ça. Vous avez le droit de tout lui demander. Cherchez sa volonté à lui. Ne cherchez pas ce que vous, vous voulez faire, mais cherchez ce que Dieu veut pour votre vie. J'ai compris que le but de notre vie, c'est que Dieu soit glorifié au travers de notre vie et que les gens qui ne croient pas en Dieu voient la main de Dieu agir parce qu'on est des gens complètement normaux. Mais la différence, c'est qu'on a Jésus avec nous. Et j'aimerais prier pour vous. S'il y a des gens qui ont été touchés par ce que j'ai dit et qui ont à cœur d'aller plus loin avec Dieu, je vais vous inviter à peut-être juste lever la main. S'il y a des gens qui ne comprennent plus l'amour de Dieu, s'il y a des gens qui n'arrivent plus du tout à prier, s'il y a des gens qui ont perdu complètement le sens de leur vie, qui ont l'impression d'être oppressés même par Dieu, que vous êtes peut-être déçus, que vous avez de l'amertume, que vous avez été blessés, je vous invite juste peut-être à lever la main et j'aimerais prier pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire un pas de foi ce matin et qui ont envie d'aller plus avec Dieu? Ouais? Ouais? Si vous voulez, vous pouvez peut-être vous avancer devant, ou si ça vous dit, ou sinon simplement vous lever. Et les autres, je vous invite à pas regarder en fait qui se lèvent parce que ça concerne vous et Dieu. Même juste lever la main, mais Seigneur, je te remets ces personnes qui sont là devant toi. Dieu me dit que il voit tous les gens qui se sont levés et il est honoré. J'aimerais juste te demander, Seigneur, de voir ces personnes et de leur montrer ce que tu veux pour leur vie. Je te demande de les guider. Je te demande de te manifester à elles et je te demande, Seigneur, de leur montrer ce que tu veux pour elles. Je te demande de leur montrer la valeur qu'elles ont à tes yeux, Seigneur. Je te demande de tracer des nouveaux chemins, Seigneur, que là où c'était sec, que là où c'était mort, toi, tu amènes la vie par ta puissance, Seigneur. Je te demande de leur montrer combien tu es doux. Je te demande de leur demander combien tu es patient, combien ils ont le droit d'être dans ta présence, combien il n'y a pas de crainte à avoir, parce que la crainte, Seigneur, n'est pas de toi. La peur et la crainte n'est pas de toi, Seigneur. Alors, je te demande de vraiment toucher ces personnes-là qui ont vraiment envie de te connaître davantage, Seigneur. Et Père, je te remercie parce que je sais que tu vas faire de grandes choses avec ces personnes-là. Seigneur, je sais que tu as vu les cœurs, je sais que tu as été touché, je sais que tu as été honoré, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tes pleurs, qui étaient des pleurs de tristesse, vont se transformer en pleurs d'allégresse, Seigneur. Papa, je te demande maintenant de venir tomber sur ces personnes-là, Saint-Esprit. Je te demande de venir les guider. Je te demande de venir les guider dans chaque chose, dans les moindres petits détails de leur vie, Seigneur. Seigneur, j'aimerais juste te remercier pour qui tu es. J'aimerais te remercier parce que tu es celui qui gère toutes choses. Tu es le roi des rois, Seigneur. Et Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que nos cœurs réalisent chaque matin qui tu es. Que nos cœurs, Seigneur, réalisent chaque matin la puissance de ton nom. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où on néglige qui tu es, pour toutes les fois où on te met sous le placard, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, j'aimerais dire que c'est un temps nouveau, qu'à partir de maintenant, c'est un temps nouveau, Seigneur, où on va te laisser toute la place, Seigneur. Seigneur, maintenant, viens, viens dans les cœurs de chaque personne, viens toucher les cœurs, Seigneur. Seigneur, prends la place que tu dois avoir. Que les cœurs voient que tu es assis sur le trône, Seigneur. Père, on veut voir ta puissance chaque jour. On veut voir ta puissance chaque jour, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton amour qui est tellement débordant, Seigneur. Pour ta paix et ta douceur, Seigneur. On veut vivre avec toi chaque jour, Père. On veut vivre avec toi chaque jour, Seigneur. Oh, Père, merci pour ta présence ce matin. Je te prie que chaque personne reparte d'ici fortifiée et édifiée, Seigneur, par ta parole. Ta parole est comme une épée qui déracine, Seigneur, et qui vient replanter ce que toi tu veux qu'il soit planté, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Viens toucher les cœurs, viens toucher les vies, Seigneur. Viens parler personnellement à chaque personne, Seigneur. Montre-leur que tu les connais, que tu connais leur quotidien. C'est toi qui les as créés, Seigneur. Je te demande vraiment de leur montrer combien tu tiens à elles, Seigneur. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on applaudisse. Merci, Seigneur.